Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Jusqu'à 14h ensemble, on va observer la vie des autres ailleurs. Avec pour commencer les paillettes des Miss. On sera en Thaïlande qui accueillait la semaine dernière le concours de Miss Univers. Enfin là-bas, des concours de Miss, il y en a tous les jours et partout. Beaucoup moins souriante, la situation des Argentins qui tirent le diable par la queue. La crise économique est vraiment rude là-bas. Et pour assurer le quotidien, les femmes participent à des clubs de troc, des bottes contre 6 œufs. Compliqué de se mettre dans l'esprit de Noël dans ces conditions. Noël, l'entraide, la recherche de paix, on en parlera avec un grand monsieur qui nous rend visite dans les carnets, Andrea Riccardi, le fondateur de l'ONG catholique Sant'Egidio, une communauté présente partout dans le monde, dont on parle souvent pour le prix Nobel de la paix et qui fête ses 50 ans. Côté littérature, avec Nicolas Carreau, on recevra Adeline Dieudonné. Elle est belge et son premier roman cartonne, c'est le phénomène littéraire du trimestre. On va lui demander ce que le succès change dans sa vie. Enfin, Joseph fermera le banc avec nous en évoquant ces longues nuits d'hiver. Les carnets du monde sont ouverts, direction Bangkok.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est la saison. La saison de quoi, me direz-vous ? Un indice.
La nouvelle Miss Univers est...
Eh ben oui, c'est la saison des Miss. Après Miss France la semaine dernière, il y a quelques jours en Thaïlande, à Bangkok, c'était le concours international de Miss Univers. Et donc, Miss Philippines, vous l'avez entendu, a été élue devant une foule ravie, des fans du monde entier, mais surtout beaucoup de Thaïlandais. Car il faut qu'on vous raconte une chose, en Thaïlande, les concours de Miss, c'est toute l'année. Il y en a pour tous les goûts, des plus traditionnels aux plus farfelus. Thaïlande, la folie des concours de beauté. C'est un reportage signé Carolizo.
Miss Grand Khonkan.
À cheval sur un lézard géant, Miss Khonkan, une ville du nord-est de la Thaïlande, défile pour sa région. Nous sommes dans la salle de spectacle de l'un des luxueux centres commerciaux de Bangkok. Les jeunes femmes viennent de toutes les villes du pays dans des costumes parfois bizarres. L'une d'elles est en combinaison de plongée, une autre porte 30 kilos de décoration sur les épaules. Chacune est accompagnée de ses fans, bien sûr.
Je suis tellement content qu'elle soit dans les finalistes. Je savoure le moment. Elle est naturelle, elle est sincère. Elle est d'un genre de beauté rare qui a de la valeur.
Miss Khonkan ne remportera malheureusement pas la compétition aujourd'hui. Mais pas de problème, elle pourra toujours se rattraper sur l'un des innombrables concours de beauté du pays. Miss Tourisme, Miss Terre ou encore Madame Thaïlande pour les femmes mariées. Chaque ville, chaque village et même chaque université organise une compétition annuelle. Si bien que certaines de ces jeunes femmes en ont fait une véritable profession. C'est le cas de Miss Phuket qui passe sa vie à courir les concours.
Je vais à tous les concours, les petits, les grands, partout en province, une centaine par an. Quand j'étais petite dans mon village, je n'avais pas beaucoup d'occasion de porter de jolis vêtements. Je voulais montrer que moi aussi j'étais capable, que je n'avais rien à envier aux autres et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir Miss professionnelle.
Tradition très ancienne au royaume du Siam, les concours de beauté ont connu un renouveau avec l'apparition des réseaux sociaux. Chaque Miss peut devenir une influenceuse susceptible de vendre des produits à ses fans. Elles peuvent aussi aider à lever des fonds pour une bonne cause. Certains n'hésitent pas à exploiter le filon, comme ce lycée qui organise tous les ans, avec des élèves en uniforme, un concours de Miss Physique Chimie diffusé sur YouTube afin d'obtenir des financements pour leur laboratoire.
Miss Chemistry Universe 2017.
Mais attention, en Thaïlande, pour gagner, il faut être jolie, bien sûr, mais il faut aussi savoir bien réaliser le Y, le salut traditionnel, main jointe au niveau de la poitrine. Le Y fait souvent l'objet d'une note à part et peut conquérir les juges. Nathalie Glebova, russo-canadienne élue Miss Univers à Bangkok en 2005, l'avait bien compris.
J'ai été surnommée la Miss étrangère qui fait le plus beau Y, parmi toutes les Miss étrangères. Et même certains Thaïs ont dit que je le faisais mieux que les Thaïs. Vous savez, il y a eu deux Miss Univers thaïlandaises dans l'histoire du concours, mais beaucoup me considèrent comme la troisième. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette relation avec les Thaïlandais. Je suis une fille adoptive de la Thaïlande.
Mais les temps ont bien changé, estime pourtant certaines. Pawina Barumroth est elle-même une ancienne reine de beauté devenue organisatrice de concours. Pour elle, il est loin le temps où les participantes pouvaient se contenter d'être belles et de saluer gracieusement.
On voit arriver des jeunes filles diplômées qui ont confiance en elles, qui ont un plan d'avenir, qui utilisent le concours pour montrer leur talent et lancer leur carrière, pas pour se marier.
Et si on lui demande si ces concours ne sont pas un peu démodés, un peu sexistes peut-être, voici ce qu'elle répond.
Mais si, ça donne une bonne image des femmes. On montre des jeunes femmes intelligentes, matures, qui ont du talent. On valorise celles qui font des progrès pendant la compétition. Les fans de concours de beauté en Thaïlande sont majoritairement des transsexuels qui se cherchent des idoles. C'est le cas dans toute l'Asie.
L'importante communauté transgenre de Thaïlande a d'ailleurs aussi ses propres concours de beauté, comme celui de Miss Tiffany, spectaculaire et déjantée, de renommée mondiale. Il est organisé tous les ans dans la station balnéaire de Pattaya. Ladies and gentlemen, Angela Ponce. Hasard du calendrier ou pas, le concours de Miss Univers organisé à Bangkok la semaine dernière a accueilli sous les applaudissements chaleureux du public la première candidate transsexuelle de son histoire. Caroline Zou, Bangkok, Europe 1.
Voilà, retour dans les studios d'Europe 1 et on retrouve Caroline Zou depuis Bangkok. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Alors Carole, si je comprends bien, ces concours de beauté, c'est une industrie pas du tout en désuétude, mais plutôt en pleine expansion chez vous.
Ah oui, puisqu'ici, tous les ans, de nouveaux concours sont créés. On a Miss Nature, Miss Reine du Tourisme, Miss Nation, Miss Fonctionnaire, si si.
Miss Fonctionnaire.
Oui, Miss Fonctionnaire, absolument. Aujourd'hui, même les hommes s'y mettent. On a assisté récemment à l'apparition d'un Mister Tourisme et d'un Mister Chasse à l'Homme.
Mister Chasse à l'Homme, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah bah c'est très sérieux, hein. Ça se définit comme un concours de mannequins mais viril.
D'accord, ok.
Et ce n'est pas une situation exclusive à la Thaïlande, puisque toute l'Asie du Sud-Est connaît cette tendance. Des concours régionaux sont d'ailleurs organisés entre différents pays asiatiques.
Mais franchement Carole, pourquoi un tel engouement ?
Eh bien parce que ça rapporte gros évidemment. Ouais. On considère que l'organisation de ces concours génère environ 13 millions d'euros par an rien qu'en Thaïlande. C'est surtout l'industrie du tourisme qui en bénéficie, les hôtels, les restaurants, les sites touristiques, les sponsors se bousculent. Il y a aussi des retombées à l'international, plus difficiles à mesurer évidemment, mais il s'agit d'exporter une bonne image de la Thaïlande.
Vu le succès, on imagine que les médias thaïlandais ne sont pas les derniers à relayer ces concours.
Exactement, et surtout les nouveaux médias sur les réseaux sociaux. Chaque concours est couvert, ouais. Des émissions spéciales leur sont consacrées. La presse people regorge d'anecdotes, d'histoires de rivalité entre candidates, de drames de cœur. Dernière en date, lors du concours de Miss Univers, Miss États-Unis s'était moquée dans une vidéo de l'accent de certaines Miss Asiatiques, très relayée par les médias. L'incident a déclenché en Thaïlande une immense vague d'indignation et bien sûr attisé l'intérêt du public autour du concours.
Vous avez des soirées télé passionnantes, Carole, hein ? Trop de chance !
Ah oui.
Du côté du Y, vous assurez, j'espère ?
Ouais, je me débrouille pas mal, je vous apprendrai, Sophie.
Super, merci beaucoup, Carole. À très vite dans les carnets.
Au revoir, Sophie.
Europe 1.
On va filer en Amérique du Sud maintenant, auprès des Argentins qui ont bien d'autres préoccupations. Frappés de plein fouet par une crise économique, ils préparent Noël en multipliant les systèmes D, et notamment un peu partout fleurissent des clubs de troc. A tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Europe 1.
Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1, les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Et tout de suite, prenons la direction de l'Argentine.
Noël s'annonce difficile pour les Argentins. Le pays traverse une grave crise économique. L'inflation explose, comme les prix. Le coût des carburants, par exemple, a augmenté de 75%. La pauvreté et le chômage augmentent. Et les mesures d'austérité prises par le gouvernement de Mauricio Macri pèsent sur la population. Alors, pour survivre, les Argentins s'adaptent. Coupent dans toutes les dépenses, soupe populaire. Et puis, c'est le grand retour du troc. Notre correspondante à Buenos Aires, Audevillier Moriamé, s'est rendue au rendez-vous d'un club de troc en banlieue de la capitale argentine. Reportage.
Nous sommes à Monte Grande, à 30 km au sud de Buenos Aires. Derrière la gare, plusieurs dizaines de femmes étalent des couvertures sur une pelouse mal entretenue. Dessus, elles placent de vieux vêtements, des jouets pour enfants ou encore quelques paquets de gâteaux.
Ah,
Andrea, la quarantaine, s'est installée en bordure de la place. Après avoir perdu son travail il y a 2 ans, cette habitante de Monte Grande a commencé à fréquenter assidûment les trocs de la région.
J'offre des vêtements contre de la nourriture ou par exemple, j'échange des jouets pour enfants contre des jus de fruits. Ce groupe de troc m'aide énormément à m'en sortir. C'est impossible de trouver du travail en ce moment. Il n'y a rien. On survit, c'est le mot, c'est dur. Et encore, nous, on a seulement un enfant à charge. Ici, il y a des femmes qui ont 5 voire 6 enfants à la maison.
Justement, voilà Marcela, mère célibataire qui élève ses 5 enfants à Monte Grande. Avec l'inflation qui a explosé ces derniers mois, et malgré son travail d'employée de maison, elle n'y arrive plus au quotidien.
Tout est très cher. J'ai beau travailler, ça ne suffit pas. Il y a un an, ce n'était pas comme ça. Les gens s'en sortaient à peu près avec leur salaire. Mais aujourd'hui, par exemple, je paye une bonbonne de gaz 370 pesos. Il y a un an, c'était 100, 150 pesos. Tous les prix ont explosé. Et ne parlons pas du ticket de bus qui augmente tous les mois.
Comme la majorité des femmes, car on ne voit ici quasiment que des femmes, Marcela porte un dossard sur lequel est inscrit son numéro de membre du club. Au centre de la place, des organisatrices, vêtues d'un tablier bleu, en distribuent aux nouvelles arrivantes.
Je m'appelle Sandra, je suis l'organisatrice du club de troc de Monte Grande. Je l'ai lancé il y a à peu près 2 ans parce que j'étais dans le besoin. Au début, nous étions 10-15 femmes et aujourd'hui, voilà ce qu'on voit.
Des centaines de femmes défilent à présent tous les vendredis après-midi. Devant une telle affluence, Sandra a décidé d'allonger les horaires du club de troc.
On a tout un numéro. Les femmes arrivent, elles pointent et puis elles échangent. C'est le troc. Tu me donnes et je te donne. S'il y a des personnes qui ne sont pas membres, je les autorise à faire des petites transactions avec un peu d'argent. En général, elles donnent ce dont elles n'ont plus besoin et même parfois ce dont elles ont encore besoin tant c'est difficile. Ça me met en colère, honnêtement. Regarde toutes ces femmes qui attendent avec leurs enfants, au soleil, fatiguées. C'est lamentable ce qu'on vit aujourd'hui dans ce pays.
La plupart des échanges sont organisés à l'avance à travers le groupe Facebook du club. Les membres publient une photo de ce qu'elles ont à donner et conviennent de se retrouver le vendredi suivant derrière la gare. Marcela tient une feuille de papier froissé sur laquelle elle a noté toutes les transactions qu'elle a prévu de faire aujourd'hui. Des bottes contre une demi-douzaine d'œufs. À quelques mètres de là, Anaïs, 32 ans, porte un paquet de sucre sous le bras et un sachet de farine sous l'autre. Elle a fait plus de 40 minutes de bus pour venir ici.
Je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Mon mari a perdu son travail et moi je reçois seulement une maigre allocation de l'État pour mes enfants. Dès que je touche cet argent, je leur achète ce dont ils ont besoin. Mais eux voudraient partir en vacances, aller au parc. Mais si on sort et qu'ils veulent ensuite acheter quelque chose à manger, je dois leur expliquer que je n'ai pas assez d'argent. C'est très dur de leur dire ça.
En 2001, date de la dernière grande crise économique qui avait frappé l'Argentine, Anaïs était adolescente. Elle a vu ses parents galérer, mais c'est la première fois qu'elle se trouve dans une situation pareille. Aujourd'hui, nous dit-elle, sans les clubs de troc et la solidarité de ses voisins, elle et sa famille seraient à la rue. Audvillier-Moriamé, à Buenos Aires, pour Europe 1.
Retour en studio et on est en ligne avec Audvillier-Moriamé à Buenos Aires. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Des bottes contre une demi-douzaine d'œufs, ce qu'on a entendu, hein, le troc pour manger, on l'a entendu dans votre reportage. Pourquoi la situation de ces familles s'est-elle tant dégradée ces derniers mois?
Eh bien parce que la crise est de retour en Argentine et c'est une crise particulièrement profonde. La monnaie du pays, le peso, a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Le taux d'inflation devrait dépasser 45% en 2018 et les salaires, bien sûr, ne suivent pas le rythme. Alors le pouvoir d'achat des Argentins, vous l'imaginez bien, est sérieusement entamé. Ouais. Dans un contexte de récession, les entreprises ont de plus en plus de difficultés, le chômage augmente, tout cela fait qu'aujourd'hui, plus d'un Argentin sur 3 se trouve sous le seuil de pauvreté. Donc évidemment, le cas de la ville de Monte Grande, qu'on a entendu dans le reportage, n'est pas isolé. En fait, des clubs de troc, il y en a partout dans le pays. Mais on voit aussi apparaître d'autres initiatives citoyennes, comme des soupes populaires ou des dons de vêtements. Ouais. Pour les Argentins, c'est un coup dur, parce que ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Le troc, c'est quelque chose qui était extrêmement courant en 2001 ouais. et dans les années qui ont suivi.
Est-ce qu'on peut comparer les deux crises, celle que traverse l'Argentine maintenant et celle de 2001 ?
Non, pas tout à fait, même si le souvenir de 2001 reste extrêmement présent dans la mémoire des Argentins, et même s'il y a quand même des similitudes. Dans les deux cas, c'est une crise monétaire qui a mis le feu aux poudres, mais à l'époque, pour empêcher la fuite des capitaux, le gouvernement avait bloqué l'accès des Argentins à leurs économies qui se trouvaient à la banque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En 2001, il y avait aussi très peu d'aide sociale du gouvernement, alors qu'actuellement, il existe un système d'allocation mis en place par les précédents gouvernements de Nestor et Cristina Kirchner, système qui garantit au moins une aide minimale aux familles les plus vulnérables.
Et dans les deux cas, l'intervention du Fonds monétaire international.
Et oui, le FMI a accordé cette année à l'Argentine un prêt de 56 milliards de dollars pour aider le pays à faire face à la crise. Mais ça, c'est un point qui fâche les Argentins, parce que beaucoup tiennent le FMI pour responsable de la crise de 2001. Oui. À l'époque, l'institution financière avait déjà octroyé un prêt à l'Argentine, mais le pays était entré en défaut de paiement précipitant cette crise. Oui. Aujourd'hui, sur les murs, on voit d'ailleurs très souvent des tags FMI dehors.
C'est un tableau assez sombre que vous nous décrivez, Aude. Est-ce qu'il y a quand même des perspectives d'amélioration, une sortie de crise à l'horizon ?
Alors, tous les économistes estiment que la récession devrait se prolonger l'an prochain. La pauvreté risque d'augmenter encore. C'est le gouvernement lui-même qui le dit, tout en appelant la population à s'accrocher. Les dirigeants expliquent qu'une fois que les comptes publics seront rééquilibrés, tout ira mieux. Car ce sont précisément les exigences du FMI vis-à-vis de l'Argentine qu'elle réduise son déficit public. Oui. Seulement pour la population, le poids des mesures d'austérité devient de plus en plus lourd à supporter. Et face à cette colère qui monte, ça risque de devenir difficile pour le président Mauricio Macri, qui cherchera à être réélu l'an prochain.
Oui, d'autant qu'il vient d'amputer le budget 2019 de 10%, ça ne va pas aider. Merci beaucoup Aude pour ces explications et à très bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Europe 1.
À suivre, une petite parenthèse littéraire avec, une fois n'est pas coutume, une invitée. On reçoit la jeune auteure belge Adeline Dieudonné dans un instant. 180 000 exemplaires vendus pour son premier roman. Ça s'appelle Un carton.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
Profitez bien de votre dimanche à l'écoute d'Europe 1 et dans les carnets du monde. Il est temps de retrouver la chronique littéraire avec Sophie Larmoyer et Nicolas Carreau.
On est avec Nicolas Carreau qui entraîne sa diction aujourd'hui. Je vous dis tout, il s'est fait arracher une dent et chachouinte un peu.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu. Bonjour Nicolas.
Salut.
Cette semaine, pour la dernière avant les vacances, pas de chronique classique entre guillemets. On a décidé de revenir sur la success story de cette rentrée littéraire.
Ben oui, parce qu'il se trouve que le phénomène littéraire de cette rentrée française est belge. Il s'agit d'Adeline Dieudonné et son roman La vraie vie chez l'Iconoclaste.
Adeline Dieudonné qui est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour phénomène. On est très contents que vous soyez passé nous voir.
Nous en avions parlé déjà dans les carnets du monde au mois de septembre.
Très tôt.
On sentait déjà à l'époque que quelque chose se passait, comme un petit frémissement. Et depuis, bah, je vous la fais courte, prix Fnac, prix Renaudot des lycéens, prix Russell, ça c'est le Goncourt belge, 180 000 exemplaires vendus et c'est un premier roman complètement dingue. Mmh. La vraie vie, je vous rappelle, pour les rares qui ne l'ont pas encore lu, nous sommes en Belgique, dans un lotissement gris. Il y a là une petite fille, c'est la narratrice, son petit frère Gilles, toujours souriant, et ses parents, sa mère, inexistante, et son père, un ogre, chasseur de gros gibier. Il entasse d'ailleurs ses trophées de chasse dans une pièce de la maison. Un jour, les deux enfants assistent à une scène terrifiante. Gilles est traumatisé, il perd définitivement son sourire. La petite fille décide alors de construire une machine à voyager dans le temps.
La petite fille, c'est pas facile à dire.
La petite fille, c'est dur à dire, ça veut dire qu'une dame. Comme dans Le Retour vers le futur, pour revenir dans le passé et empêcher l'événement d'advenir. C'est un roman terrible et drôle. Il y a un décalage permanent qui désamorce l'horreur. Et ce qui est fou avec ce roman, c'est qu'il plaît à tous les publics, à des lecteurs très différents.
Et vous risquez de vous coucher très tard. Si vous le reprenez le soir, je vous signale,
c'est
ça m'est
cas,
arrivé.
Voilà.
Alors avec vous Nicolas, on a eu envie de profiter de cette fin d'année pour faire un petit bilan de ces derniers mois. Avec vous, Adeline Dieudonné, après ces 180 000 exemplaires vendus déjà.
Oui, je ne vous demande pas, Adeline, si vous attendiez un tel succès, parce qu'on passe son temps à vous poser cette question, alors qu'on se doute de la réponse. Vous avez une réponse toute faite pour ça ?
Oui, bien sûr, je m'y attendais, c'était totalement prévu, c'était totalement construit. Je suis même un poil déçue d'ailleurs.
Je ouais,
que... Alors
ouais.
Je dois vous dire que Adeline Dieudonné est comédienne également de formation, et là elle a bien joué.
Bon, mais... Quand même, premier roman, énorme succès. Évidemment, votre vie change. Comment vous vivez ça ? Ça peut être vraiment intéressant et drôle à vivre, en fait, non ?
Oui, oui, c'est complètement fou. Évidemment, on n'imagine pas du tout qu'une aventure pareille va nous tomber dessus quand on sort un premier roman. Et donc, et comme vous dites, c'est intéressant, c'est drôle, c'est fatigant aussi. Mais je suis très, très, très heureuse et voilà. Mais un petit peu fatigué, effectivement. Là, il est temps que les vacances arrivent.
Et j'étais à la foire de Brive avec vous, et c'était très drôle parce qu'on croisait des gens très différents, des types de lecteurs et lectrices très différents, et qui vous sautaient dessus à chaque fois pour vous dire « j'adore votre livre ». Et on tombe sur une lectrice un peu plus lecture feel good book, vous voyez, qui a adoré La vraie vie. Ensuite, on tombe sur Yann Kefelec, prix Goncourt, qui vous tombe dessus aussi pour vous dire à quel point c'était super. Il y a quand même, c'est ça la réussite quand même de ce roman, c'est qu'il y a tellement différents niveaux de lecture que ça peut plaire vraiment à tout le monde. C'est très fédérateur.
Bah oui, et ça, je ne l'explique pas, parce qu'évidemment, quand on écrit un bouquin, on ne construit pas, on ne se dit pas qu'on l'écrit pour tel ou tel public. Mais je suis effectivement assez émerveillée de voir qui plaît à beaucoup de gens, et aussi toutes les tranches d'âge, parce qu'il y a les lycéens qui m'ont plébiscité avec le Renaudot des lycéens, et puis des personnes plus âgées. Enfin, j'ai vraiment tout le monde.
Ouais. Et de croiser des auteurs que peut-être vous lisiez, que vous admiriez, comme ça, à la foire de Brive ou dans d'autres salons que vous faites, ça fait quoi?
Oui, ça c'est
ça change le rapport, quoi.
Oui, c'est très bizarre. Tout à coup, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands et d'avoir le droit d'aller jouer avec eux. C'est chouette.
D'ailleurs, vous êtes donc le phénomène de la rentrée littéraire française, mais vous êtes belge. Ça change quoi, ça?
Alors, peut-être que ça m'a un petit peu sauvée pendant toute cette promo, parce que à chaque fois, je rentrais à la maison à Bruxelles et que j'étais un petit peu retirée de la ligne de front. Donc c'est assez agréable. Après, c'est vrai que c'est curieux. Je suis à cheval entre deux mondes, même si on n'est pas loin les uns des autres. C'est quand même deux univers relativement différents. Je me rends compte qu'il y a des vraies différences culturelles, même si on parle la même langue. Mais c'est super chouette.
Ça a changé quoi dans votre vie quotidienne?
Alors là, c'est que j'étais en déplacement tout le temps, en voyage, que j'ai dû composer avec mes deux petites filles. Et puis ça change le regard des gens aussi. Ça, c'est très perturbant, parce que il y a quelques mois, tout le monde s'en fichait un petit peu d'Adeline Dieudonné, de ce qu'elle pouvait faire. Et là oui, c'est curieux. Et je m'habitue pas encore tout à fait à cette notoriété. Donc parfois, j'ai des gens qui me reconnaissent dans la rue, des choses comme ça que j'anticipe.
Ça fait bizarre.
Ça fait très bizarre. Ça fait un peu peur parfois.
Et pardon, c'est peut-être un peu trivial, mais matériellement, ça change aussi la vie, ça change la perspective, non?
Ah oui, complètement. Bah, ça veut dire, c'est surtout synonyme de liberté pour moi. Parce que ça veut dire que maintenant, je peux entamer tous les projets que je veux, je peux faire toutes les propositions que je veux, et maintenant, je suis entendue, alors que... En tant que comédienne, c'est quelque chose dont j'ai souffert. C'est-à-dire que j'avais envie de jouer, j'avais envie de faire des choses. Et on se prend plein de portes dans la figure. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui.
D'ailleurs,
vous
avez un spectacle, un one-man show, je crois. One-woman show.
Bonobo Moussaka.
Oui, Bonobo Moussaka. Ce n'est pas un one-woman show, parce que ce n'est pas un spectacle d'humour. C'est un vrai seul en scène de théâtre.
Ouais. On rigole aussi.
On rigole aussi, oui, tout à fait.
Et alors ça aussi, vous avez continué à jouer
Ben là, on a remis quelques dates.
Oui. Et ça a changé quelque chose?
Ah oui. Ah oui, là, tout à coup. L'année passée, j'ai régulièrement joué devant des salles de 10-15 personnes. Et là, j'ai joué hier soir devant 200 personnes. et la salle était comble. On ne pouvait pas en accepter plus. Donc là, on a remis trois dates juste là, ces derniers jours. Parce que ça me faisait du bien aussi de me retrouver sur scène, et c'est défoulant, c'est autre chose, et d'être dans autre chose que la vraie vie.
Et on parle d'une adaptation à Paris aussi, puis d'adaptation cinéma pour la vraie vie, il y a plein de projets maintenant comme ça.
Oui, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de propositions. Donc là, c'est bien que les vacances arrivent, parce que je vais pouvoir me poser un petit peu, réfléchir aux priorités, parce que je ne vais pas pouvoir tout assumer non plus, mais c'est génial, je suis super super heureuse.
Ça change votre rapport à l'écriture, la manière dont vous asseyez peut-être à votre table, derrière votre ordinateur ou...
Je ne sais pas encore, parce que je ne m'y suis pas remise. Et donc ça, j'aurai la réponse en janvier, quand je vais réattaquer, parce que j'ai vraiment envie de...
C'est ma priorité de la numéro 1. Du bouquin suivant?
Non, je n'ai pas d'idée. D'accord. Mais c'est très bien, parce que moi, il ne me faut surtout pas d'idées. Les idées, c'est mes pires ennemis. Donc je vais m'y mettre.
Vous commencez à écrire, vous voyez comment ça se passe.
Voilà, exactement. Je sème... J'aime des trucs, et puis je regarde ce qui pousse, et je fais en fonction.
Bon, nous, on a bien aimé ce qui a poussé la dernière fois, donc...
Et tout le monde a aimé.
Portez-vous bien, écrivez bien, et puis revenez-nous dès qu'on pourra parler du suivant, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
La vraie vie chez l'iconoclaste.
Merci Nicolas, merci Adeline Dieudonné.
Merci.
Europe 1.
À suivre, un autre invité de marque. Il y a 50 ans, il a fondé la communauté Sant'Egidio,
une communauté catholique pour s'occuper des SDF de Rome. Aujourd'hui, c'est une immense ONG active dans le monde entier. Andrea Riccardi sera avec nous dans un instant.
Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner en ce dimanche. Les carnets du monde avec Sophie Larmoyer et un invité de marque qui nous invite à porter le regard à la fois dans sa rue et sur le monde entier.
En cette veille de Noël, nous accueillons un homme qui a reçu de nombreuses distinctions pour son action au service de la paix, le fondateur de la communauté Sant'Egidio. Bonjour Andrea Riccardi.
Bonjour.
Merci beaucoup, on est ravis de votre visite ici à Europe 1. Quelques mots d'abord peut-être sur Sant'Egidio, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc une communauté catholique qui est devenue au fil du temps une très grosse ONG présente dans plus de 70 pays sur la planète. C'est énorme, une ONG au service des plus pauvres et de la paix. Sant'Egidio est devenu un acteur de la diplomatie internationale, on y reviendra tout à l'heure. Vous fêtez un anniversaire cette année, Andrea Riccardi.
Nous fêtons le 50e anniversaire et je fais seulement un livre qui regarde le futur plus que le passé.
Voilà, un livre d'entretien, tout peut changer, où vous essayez de tirer un petit peu des perspectives.
Oui, le risque est d'être nostalgique du passé, et quelle est la nostalgie de la jeunesse aussi, quand le monde allait comme... Mais le monde reste toujours difficile.
Alors quand même, un anniversaire, c'est toujours l'occasion de se rappeler la naissance. La naissance de Sant'Egidio, c'était en 1968. Vous étiez lycéen, vous aviez 18 ans et vous avez décidé avec quelques copains de prendre vos vélos et d'aller à la rencontre des pauvres. Pourquoi ?
À cause de l'évangile, à cause du climat qu'on vivait dans l'école, tout peut changer. 68, et les jeunes peuvent changer le monde. Et vous commencez à changer le monde en partant de pauvres.
C'était donc votre manière de vouloir changer le monde à l'époque et vous n'avez pas cessé depuis. Vous êtes aujourd'hui historien du christianisme et un penseur reconnu partout dans le monde pour cette action que vous avez mise en œuvre. 50 ans après, la philosophie de la communauté reste la même, notamment là où vous aviez commencé à organiser le Giro, cette tournée dans la capitale, dans les rues de Rome. Tous les mardis soirs, des bénévoles font des rondes à la rencontre des sans-abri. Notre correspondante Blandine Hugonnet a accompagné une équipe. Je vous propose d'entendre son reportage.
Nous sommes ce soir devant la petite gare Tuscolana dans la banlieue sud de Rome. Dans la nuit, des dizaines d'hommes font la queue le long d'un mur. Gonzalo, Cristina et les autres sont en train de leur distribuer barquettes de pâtes chaudes, mandarines et couvertures. Bénévole de longue date avec Sant'Egidio, Marina connaît bien ceux qui vivent dans la rue, comme cet Italo-Indonésien qu'elle tient par la main.
Notre ami, il dort à l'aéroport. Là, il est de passage parce que c'est plus abrité ici. On s'est connus place de Venise la première fois et puis après, il est venu manger dans notre centre. Et alors, on s'est retrouvés ici, n'est-ce pas ?
Aller à la rencontre des démunis pour éviter l'exclusion et l'indifférence, c'est la mission que s'est donnée Sant'Egidio à la fin des années 60, ici, dans les périphéries de la capitale romaine. Membre historique de la communauté, Marco s'y est engagé jeune lycéen il y a 50 ans, attiré par cet esprit de fraternité avec les plus pauvres.
On est toujours parti avec quelque chose à donner, parce que ça permet de commencer une relation. Ensuite, je pense que c'est plutôt la fidélité, d'être toujours les mêmes, dans le même coin de la ville et de parler avec toujours, de rencontrer les mêmes gens, ça crée un lien qui est très fort dans le temps. Ce sont des vrais amis et de temps en temps, on fête les anniversaires avec eux. Nous avons l'ambition d'arriver à connaître tous les sans-abri de Rome, qu'au moins ils aillent un ami de Sant'Egidio chacun.
Marco se dirige justement vers un groupe de femmes restées un peu à l'écart dans la nuit. Elles viennent de Géorgie et sont arrivées depuis peu à Rome. Marina et lui leur proposent un sandwich, mais avec Sant'Egidio, ils sont aussi là pour les conseiller, les accompagner pas à pas dans leur intégration en Italie.
Les papiers pour rester en Italie, vous ne les avez pas ? Aucune de vous ?
Il faudrait venir à notre centre le mardi après-midi pour demander ensemble les papiers. Aujourd'hui, il y a un décret qui s'appelle le décret sécurité, qui limite encore plus la possibilité d'avoir un permis de séjour. Mais il faut faire quand même une demande. Parce que si on vous arrête dans la rue, vous allez dire quoi ? Que vous êtes des touristes ? Et après, on vous renvoie dans votre pays, ok ? Alors, toi qui as des papiers, toi, tu peux venir tous les mercredis après-midi. On fait des entretiens pour ceux qui cherchent du travail.
À l'intérieur de la petite gare de banlieue, Roberto, Francesco, Maria s'apprêtent à dormir là. Comme eux, 2 à 3 000 sans-abri de la capitale italienne ont reçu ce soir la visite d'un visage familier de la communauté Sant'Egidio. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Voilà un visage familier, notamment ce Marco, donc, qui était déjà là il y a 50 ans avec vous et qui fait toujours des maraudes. Andrea Riccardi, 50 ans après, il y a toujours des gens à la rue, des gens qui ne s'en sortent pas. Vous avez publié il y a 2 ans un petit livre, un beau plaidoyer qui s'appelle « Périphérie », dans lequel vous exhortiez l'Église, mais aussi les élites, à retourner dans les territoires oubliés, tendre la main aux exclus. Alors, vous savez que c'est terriblement d'actualité ici en France, là, avec ce mouvement des Gilets jaunes qui révèle finalement que le champ d'exclusion est peut-être beaucoup plus large qu'on ne le pense.
Il y a des périphéries urbaines, il y a des périphéries humaines. Je pense que la condition d'être périphérique s'accompagne à une autre condition, de se sentir périphérique. Et surtout, nous sommes dans une société de femmes et hommes seuls. Et beaucoup de réseaux politiques, le parti, le syndicat, aussi l'Église, sont en difficulté ou se sont effondrés.
Ouais.
Et alors, on est seul. Et
vous quand dites que c'est un seul, désert de solitude, les périphéries.
Un désert de solitude. Et quand on est seul, on est impuissant. Les personnes plus âgées, ils se sentent impuissants. Les jeunes, quelquefois, se rebellent ou se radicalisent.
Et vous dites que cette colère sert quoi ? Les populismes. Et donc, ça veut dire que nos élites ont une responsabilité énorme, qu'il faut réagir très vite.
Il faut réagir très vite. Et les élites, la politique et la société. Chacun de nous doit s'interroger quoi peut faire pour les autres. Il faut rebâtir la proximité. Les élites et chacun de nous peut être, dans le petit ou dans le grand, acteur de proximité.
Alors c'est quoi la solution ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron, que vous avez rencontré, je crois, il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, pour faire face, par exemple, à cette colère qui s'exprime ?
Il faut écouter. Ce sont des personnes pas écoutées. Il faut écouter leurs besoins et il faut chercher de répondre. Et on a besoin, premièrement, d'interlocuteurs. Je pense que nous sommes dans une société de sourds.
Entre 2011 et 2013, vous aviez été ministre pour la coopération internationale et l'intégration. À l'époque, vous aviez dit que ce qui vous avait décidé, c'était l'urgence face à la crise économique que vivaient les Italiens. Aujourd'hui, l'extrême droite, Matteo Salvini, sont au pouvoir en Italie. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait vous motiver pour retourner dans l'arène politique ?
Moi, je crois beaucoup qu'il y a un espace énorme dans la société de travail que nous faisons. Aujourd'hui, le problème du populisme est un problème dans la société même. Il a ses racines dans les personnes et dans la société.
Ça veut dire qu'il faut remettre les questions sociales au cœur de tout ?
Il faut remettre les questions sociales, les questions d'éducation au cœur de tout. Il y a aussi un problème culturel. Ce monde est devenu compliqué. Il faut le déchiffrer. Et pour le déchiffrer, il faut avoir des outils.
Il faut remettre la culture aussi au centre. Vous dites que la pauvreté culturelle nourrit le populisme.
Ah, la pauvreté culturelle nourrit le populisme et nourrit cette attitude de disparition. Après la fin de la guerre froide, nous pensons que la paix et la démocratie gagneraient le monde. Aujourd'hui, nous voyons que les démocraties sont un petit noyau en difficulté. Et ça nous préoccupe beaucoup. Il faut le refonder, pas seulement dans l'institution, mais dans la conscience du peuple.
Pourquoi la culture et l'éducation ?
Ah, je crois qu'on a besoin des outils pour comprendre la réalité. Et il y a beaucoup d'ignorance. Et l'ignorance, c'est la mère de préjugés. Et les préjugés préparent des conflits.
Cette question des territoires oubliés, vous dites que ça représente un enjeu fondamental du siècle, carrément.
Je crois. Et pas seulement en Europe. Je dirais en Europe moins que dans le sud du monde. Les mégavilles du sud du monde. Vous allez à San Paolo, ce sont des territoires pas seulement hors contrôle, mais hors d'une perspective du futur. En ces lieux, le vide n'existe, le vide est occupé. Et souvent, le vide est occupé par les mafias. Des mafias qui sont des organisations économiques criminelles énormes.
Et Jair Bolsonaro a été élu le candidat d'extrême droite au Brésil que vous venez de,
oui,
que vous venez de citer.
Oui, car Bolsonaro semble de donner un peu l'homme fort. Mais les hommes seuls et dépaysés cherchent l'homme fort qui fait sentir tout le monde un tribut. Pas une communauté, mais un tribut.
Andrea Riccardi, on poursuit cet échange dans un instant en élargissant encore notre regard sur le monde et sur cette recherche de paix qui est l'un des moteurs de la communauté Sainte Didio.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1.
Bon début d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Tout peut changer, c'est la conviction de l'invité des Carnets du Monde et le titre de son dernier livre.
Andrea Riccardi est l'invité très spécial des Carnets du Monde aujourd'hui, fondateur de la communauté Sant'Egidio il y a 50 ans tout juste, historien, intellectuel engagé, notamment engagé au service de la paix dans le monde, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Andrea Riccardi, Sant'Egidio est présent dans plus de 70 pays. Sant'Egidio est devenu vraiment un acteur de la diplomatie internationale dans plusieurs négociations. Vous avez pu intervenir, devenir des médiateurs en quelque sorte. Hein.
En commençant avec le Mozambique, on a travaillé dans un pays qui était dans une guerre civile terrible, 1 million de morts entre la guérilla et le gouvernement, un gouvernement plutôt communiste, marxiste. C'était une situation pénible. On faisait de l'aide humanitaire, mais on s'est aperçu que c'est inutile. Le grand problème, c'était la paix. Alors, on a travaillé, on a cherché, avec calme, de mettre les acteurs autour d'une même table, mais aussi d'associer à ça la communauté internationale, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal et les Nations Unies. 2 années et demie de négociations et la paix a été signée le 4 octobre 1992.
C'était donc la première fois que vous interveniez comme ça, comme un acteur diplomatique. Vous avez écrit un petit livre qui est paru le mois dernier, édité par le CERF, un plaidoyer pour la force désarmée de la paix. Et vous y parlez beaucoup de la Syrie, qui est en guerre depuis 7 ans. Vous allez nous expliquer pourquoi ce conflit nous concerne tous. Mais je vous propose de faire d'abord un petit détour là-bas, justement, en Syrie. Jean-Sébastien Soldaini y était au début du mois, envoyé spécial pour Europe 1, dans ce qu'on appelle la vallée des chrétiens, tout près de la ligne de démarcation instaurée entre l'armée syrienne et la ville d'Idlib. Il y a rencontré des chrétiens qui se préparaient à fêter Noël dans un contexte tendu entre sapins et obus. C'est le reportage de Jean-Sébastien Soldaini.
En entrant dans le salon de Rim d'ici, un mur attire l'attention, celui où s'étend une immense toile tissée représentant la Vierge Marie. Tout autour du portrait, des traces de plâtre, des trous rebouchés, ce sont, dit-elle, les impacts creusés par un obus tombé dans son jardin, dans la maison de cette mère de famille. Pas encore de décoration, pas le cœur à cela, en tout cas pas pour l'instant.
Mon fils est engagé dans l'armée, alors j'attends qu'il revienne de permission pour installer le sapin. Je ne le ferai pas avant. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? On vit au jour le jour. Et on se dit que tout va bien tant que les obus ne tombent pas près de chez nous. Il faut bien comprendre que de toute façon, on vit tout le temps dans la peur. On ne sait pas comment ce sera pour Noël. En cas d'explosion, nous sommes prêts à aller dans notre cave. Malgré cette ambiance, eh bien, nous allons nous préparer, comme d'habitude. Je vais même faire un costume de Papa Noël, et puis on va essayer d'être tous réunis.
Les traditions de Noël sont les mêmes qu'ailleurs. Repas en famille, visite mutuelle, échange de cadeaux avec une particularité. Le kishik, servi uniquement le matin de la nativité, du blé cuit mélangé à du yaourt, un plat blanc, symbole de pureté et de paix pour que tous les autres matins de l'année à venir soient aussi paisibles. Autre détail, le sapin semble revêtir une importance toute particulière. Il n'y en aura pas cette année dans la maison de Madeleine, autre habitante de Mardé, car dit-elle, un cousin de son mari est mort récemment, tué dans des combats, ambiance pesante, rythmée par des tirs d'obus. Ses habitants assurent que c'est quotidien. Ils égrènent la litanie des attaques plus ou moins récentes en étant plus ou moins précis dans les dates. Un contexte qui n'aide pas à préparer les fêtes. Karine s'apprête à donner son sentiment lorsqu'elle est interrompue.
On doit faire sur nous un travail psychologique supplémentaire. Il faut acheter les vêtements pour les enfants, les cadeaux, mais avec une grande pression, du stress. On va continuer à vivre, mais nous sommes en colère. En colère de voir que les enfants de France et d'ailleurs passent leur Noël en paix.
Ce ne sont pas des combats mais des tirs en l'air pour rendre les honneurs militaires à un soldat mort en opération, mais cela contribue à maintenir les esprits en tension, une tension que le révérend Itnan Bitar de la paroisse de Mardé tente de contenir.
When we go to visit each other to say Merry Christmas to...
Lorsqu'on se rend visite les uns les autres pour se souhaiter joyeux Noël et que vous ressentez autour de vous que les circonstances ne sont pas tout à fait normales, ça donne à ces festivités un goût étrange. Mais nous avons nos jeunes hommes sur la ligne de front qui surveillent en cas d'attaque. Du coup, quand les fidèles dorment ou bien pratiquent leur religion, Ils sentent que d'autres les protègent.
Il dit avoir déjà lancé les premières répétitions pour la chorale de Noël afin de gommer tout fatalisme. C'est d'ailleurs le message que tous ces chrétiens cherchent à faire passer. Nous préparons Noël comme si tout était normal. Ce n'est pas une façade, assure Béatrice Chalambelval, chef de mission adjointe pour l'ONG SOS Chrétien d'Orient.
En fait, ils ont besoin d'avoir des moments où ils ont le droit d'être heureux et le droit d'être joyeux. Et c'est exactement ce qui se passe pendant la période de Noël. Eux, ça leur permet de pouvoir enfin avoir un moment où ils vont pouvoir être rassemblés et que ce soit festif et joyeux.
Pas de lassitude en apparence, mais une certaine exaspération de devoir chaque année prendre sur soi, et le pasteur le confie chaque année depuis 8 ans. C'est un défi d'organiser Noël. Mardet, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Voilà, et on aura une pensée évidemment pour toutes ces familles qui mangeront le kishik en signe de paix mardi matin, et pour cette chorale qui chantera demain soir dans la paroisse de Mardet. Andrea Riccardi, Santé Gidio est très active en Syrie. Vous avez notamment imaginé cette année un programme de couloir humanitaire pour permettre à des réfugiés de rejoindre un pays en paix, en toute sécurité, sans avoir besoin de monter dans une barque. Vous dites que ce pays et ce conflit en particulier est particulièrement révélateur de ce qui devrait nous interpeller de tous ces conflits qui nous paraissent lointains mais qui en fait sont à nos portes.
Il n'existe pas la guerre des autres. La guerre des autres devient la nôtre. La guerre en Syrie est devenue la nôtre avec les réfugiés. Et le débat sur l'accueil des réfugiés a créé une crise en Europe, entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Et surtout, ces pauvres réfugiés au Liban, ils sont entre le feu de la guerre et la mer où il y a les trafiquants d'êtres humains, contre lesquels nous devons lutter. Alors l'idée des couloirs humanitaires, c'est quelque chose qui veut donner la possibilité d'avoir un couloir légal et sûr pour ces gens-là.
Dans votre livre, La force des armées de la paix, vous dites qu'on se contente finalement de sauver notre paix et que les ruines d'Alep en Syrie continuent de vous interpeller. Selon vous, sauver cette ville, ça aurait pu être un vrai combat de civilisation, un symbole extrêmement fort.
Je vous remercie d'avoir cité Alep, car pour moi, Alep, c'est le symbole du vivre ensemble en Orient. J'ai lancé avec la communauté un appel pour sauver Alep, un appel pour faire cesser le combat à Alep. Ça a été inutile. Le drame d'Alep, c'est le symbole de le drame du Moyen-Orient et de la Syrie, mais aussi de l'insensibilité envers la guerre des autres.
Alors justement, vous dites que le mouvement de la paix pour la paix est en déclin, vous le constatez. Quand on parle de paix, on passe pour un gentil utopiste. Pourquoi ?
Pourquoi nous sommes résignés et nous pensons à nous-mêmes, nous pensons d'être des victimes dans notre vie privée et personnelle, et nous n'avons plus l'élan aussi de faire de pression sur nos gouvernements. Rappelez-vous, à l'époque de l'Irak, la France, mais ce n'était pas seulement le président, mais c'était le peuple, les manifs, demandaient qu'il n'y a pas une intervention en Irak. Et maintenant, vous avez vu quelqu'un se donner de la peine pour la Syrie? Il me semble non. Quelque chose a changé en nous. Et en ce sens, je trouve que ce n'est pas dans le bon sens. Chacun fait ce qu'il peut faire, mais je crois qu'on a besoin de se réveiller à la responsabilité. Et ça, c'est un problème des institutions, des autorités, du gouvernement, mais c'est un problème aussi de nous. C'est révolter contre l'indifférence.
Réveillez-vous, vous nous dites.
Je dis réveillez-vous. Regardez, il y a des mondes qui souffrent. Quelle chose chacun de nous peut la faire.
Et on retiendra aussi « Tout peut changer », donc le titre de ce livre d'entretien que vous avez fait, qui est paru le mois dernier aux éditions du CERF. Merci infiniment.
Merci à
Andrea Riccardi, de votre visite. On va retenir ce message d'espoir en cette veille de Noël. Et cette injonction aussi, réveillez-vous.
Réveillez-vous.
Merci.
Europe 1.
Et c'est Joseph Chovanec qui va nous rejoindre pour boucler ses carnets. Joseph, inspiré par les longues nuits d'hiver, préparez-vous pour un petit voyage en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde. Europe 1.
Europe 1, bel après-midi. C'est la dernière page des carnets du monde que l'on tourne ensemble chaque dimanche. C'est parti pour un petit voyage en Autistan.
Notre guide en Autistan, c'est Joseph Chovanec, bien sûr, philosophe, autiste Asperger et surtout grand voyageur. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Alors en ce moment, on se lève le matin, il fait nuit. On rentre le soir, il fait nuit.
Il y a deux jours, c'était le solstice d'hiver, hein, la journée la plus courte dans l'hémisphère nord. Mais vous nous dites, Joseph, ne cédons pas à la déprime.
Oui, surtout que la déprime est due à notre mode de vie occidental qui ne s'adapte pas aux saisons. Ailleurs dans le monde, le mode de vie change totalement pendant les mois d'hiver.
Alors, expliquez-nous ça.
Mais Sophie, la première fois que j'en ai pris réellement conscience, c'était pendant mes années de passion pour l'Asie centrale. Mon prof de Pashtun ou Parto nous avait expliqué qu'en apparence, les Afghans ne faisaient rien pendant le long hiver. On croit que c'est une période de paresse, mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est en hiver que les familles se retrouvent, qu'on se raconte les poésies, bref, que la vie culturelle a lieu. Pendant l'été, on travaille dur, souvent haut dans la montagne, de façon isolée. Et donc, le fameux nouvel an persan ou afghan, le Nowruz, qui marque le printemps en très grande pompe, a un petit côté triste qu'on ne voit pas d'Occident. C'est à peu près à ce moment-là de l'année que les familles se séparent, parfois pour toujours, parce que la vie est très dangereuse pendant les labeurs de l'été.
Oui, en fait, l'hiver, c'est la saison culturelle et familiale, en quelque sorte.
Voilà, il y a un rôle culturel de l'hiver, et on retrouve ça dans beaucoup de civilisations du Grand Nord. L'été dernier, pendant mes pérégrinations en Laponie, j'ai pu observer la même chose chez les Samis. Traditionnellement, ce sont des éleveurs de rennes. Ces peuples ont relativement peu de contact entre eux pendant l'été. Mais c'est en hiver que tout se passe. Les retrouvailles, les mariages, la transmission culturelle. D'accord. Dans un tel cadre, impossible de souffrir, par exemple, de déprime en hiver. Et cet hiver presque polaire explique aussi une curiosité que les amateurs de littérature connaissent bien. L'impressionnante productivité littéraire de l'Islande, quasiment anormale quand on connaît la petite taille du pays. En Islande, c'est simple, un habitant sur trois est écrivain, ou plutôt écrivain saisonnier. C'est en hiver qu'on écrit.
D'ailleurs, les romans islandais commencent souvent sur une image d'une tempête de neige ou d'une nuit polaire.
Oui, avec un vent qui souffle avec violence, le plafond des nuages tout près du sol. Logique, l'auteur ne fait que décrire la météo quand le temps bascule à l'hiver et donc quand il se met à écrire. L'hiver islandais serait-il la saison des autistes? Peut-être. Je m'étais posé la question l'an dernier pendant que j'habitais en Nouvelle-Zélande.
Il n'y a pas de nuit polaire là-bas en Nouvelle-Zélande?
Non, mais on observe clairement qu'il y a des types humains radicalement différents entre le nord et le sud du pays. Alors que la population en grande majorité est immigrée européenne de façon relativement récente. De façon à peine schématique, le nord de la Nouvelle-Zélande est chaud, voire tropical. Cela attire des profils humains sociables, festifs. C'est la région des étudiants, des festivités, de la grande ville Auckland qui ne dort jamais. À l'inverse, le sud de la Nouvelle-Zélande qui est froid, avec des hivers neigeux. C'est peuplé de gens plus austères, économes de tempérament écossais, pour ainsi dire. C'est là que plusieurs de mes camarades autistes se sentent bien. C'est là qu'il y a la plus grande collection d'ampoules au monde. Et c'est là qu'il y a les montagnes aux hobbits, donc aux autistes. Comme le diraient les Maoris, « Te paki o hewa ». À quoi sert une météo agréable quand le cœur est troublé?
Ah, certes. Mais enfin, Joseph, vous faites le malin alors que vous partez, comme souvent pour fuir les fêtes de fin d'année, vous partez au soleil.
Au désert.
Au désert. Bon voyage alors. Merci,
merci
Joseph.
Merci, à très bientôt.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Un grand merci à Julien Blanc à la réalisation, à Florence Gimalak et Hélène Terzian qui ont préparé cette émission avec moi. On vous souhaite un très beau Noël si vous le fêtez, de bonnes vacances si vous en avez. Et en tout cas, portez-vous bien.